On va enchaîner avec Nicolas Lahaye, qui est membre du projet PIN, mais aussi chercheur associé au CHCSC, à Versailles-Saint-Quentin, et qui va nous parler de... qui pose la question « Quelle passion pour quelle musique ? Les rapports entre fandom et système punk ?»
Bonjour à tous, merci à Pinde. Merci à vous d'être là pour écouter des gens de Pinde et de m'écouter aussi, peut-être. Donc je commencerai de façon très classique, comme un bon élève. En introduction, je définirai les deux termes de mon sujet. Et tout d'abord, l'idéologie, bon, en tout cas ce que j'entends par l'idéologie, ça va faire écho à des choses que j'ai déjà entendues lors des premières interventions. Moi, l'idéologie, je vois ça comme donc un ensemble d'idées. Qui est là, je vois l'aspect structurant que peut avoir une idéologie, et pas forcément dans son sens politique, même si dans mon intervention, je vais forcément parler de politique à un moment donné ou à un autre. On opposerait ça, je la verrais de façon complémentaire à ce qu'on appelle la praxis ou l'action, même si... Ce qu'il faut déjà dire dès le départ, donc à travers la citation de Ricoeur qui parle d'idéologie et d'utopie, mais il parle d'idéologie et c'est ça qui m'intéresse, chacune a un côté négatif et un côté positif, constructif et destructeur, une dimension constitutive et une dimension pathologique. Et je pense que si on doit parler d'idéologie punk, on va forcément se poser cette question de cette dualité, de ces ambiguïtés. On vient de parler d'ambiguïté. Autre aspect, le fan punk au sens basique, c'est un admirateur qui va aimer avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins de mauvaise foi et de justification dans les postures de ses idoles. J'ai le sentiment que le fan, on peut aussi il peut muter de plusieurs façons, en plusieurs incarnations. Ça peut être un collectionneur compulsif de vinyle ou autre, un maniaque qui va conserver les tickets de concert, les flyers, les affiches, mais comme les maniaques de cinéma. Un supporter d'un groupe et bien entendu un hooligan en fonction de sa tendance à semer le désordre dans les concerts. Sa passion du punk aussi, ça c'est aussi mon intérêt, je pense qu'elle s'incarne, elle doit s'incarner quelque part pour quelque chose. Et donc à travers des lieux, donc je vais peut-être un peu parler de bars, de squats et de toilettes, forcément toujours, d'objets, des CD, des vinyles importants ou d'autres choses. Moi par exemple, un objet fondateur de ma passion pour le punk, c'est ma serviette de concert avec laquelle je m'essuyais à la fin des pogos. Vous allez peut-être en voir une image dans le PowerPoint. Et autre aspect aussi, bien entendu, des personnes, des idoles, effectivement. Si on doit parler d'une idéologie punk, on va devoir parler des idoles, ou en tout cas des personnes qui nous ont aidés à fixer cette passion pour le punk, qu'on les appelle Joe Strummer, Johnny Rotten ou autre chose. Et mon intervention portera donc sur une tentative, une ébauche de qualification de cette intensité passionnelle comme modalité d'une adhésion à une supposée, c'est rhétorique hein, quand je dis supposée idéologie punk, en me demandant donc jusqu'à quel point le goût pour le punk, pour le fan, traduit-il une adhésion à son idéologie. En premier lieu, je me poserai donc la question de qu'est-ce qui se passe quand le fan va découvrir qu'il aime le punk ou découvrir ce punk et qu'est-ce que ça veut dire. J'ai évoqué la question d'une dualité, hein, et cette dualité peut se poser chez le fan de plusieurs façons. Est-ce qu'il va seulement consommer de la musique ? Est-ce qu'il va tenter d'en produire ? Ou est-ce qu'il... Et autre point qu'on parlera en troisième partie. Cette démarche de fan va donc osciller entre deux aspects, entre passion et réflexion. Est-ce que le punk, j'aime ça parce que ça me sert à me défouler, ou est-ce que j'aime ça parce que ça me sert à penser ma vie, à structurer un mode d'action. Quelqu'un voilà, comme Craig O'Hara disait à ce sujet, le bruit qui pense qu'est le punk rock a autant une fonction libératrice que contestataire. Voilà, donc ce côté, je me libère, je me défoule, je me... Il dit fonction libératrice, on pourrait parler de fonction cathartique. C'est tout le plaisir du pogo d'arriver, de se jeter, de ressortir plein de sueur, mais au moins on s'est fait plaisir, on s'est bien défoncé, défoulé. Autre aspect, donc on va distinguer donc dès lors ces deux axes, l'aspect libérateur, l'aspect contestataire, qui va orienter le fan autant vers des préoccupations ludiques que sociopolitiques. Donc la question de cette sous-partie, ce serait de se demander qu'est-ce que le fan va d'abord trouver dans cette révolte culturelle. Donc là, je cite le sous-titre du bouquin de Craig O'Hara, donc philosophie du punk. Tout d'abord, et ça fait écho à ce que vous avez dit tout à l'heure aussi, une certaine idée de la musique. Bon, punk, j'y vais très rapidement, le punk, ce serait un son, un bruit, une énergie, des paroles provocantes, ou peut-être des paroles où on se reconnaît dans ce que dit le groupe. Là, je mets en exergue cette citation de Junk King, c'est un roman, mais un roman qu'on peut qualifier de très très lourdement autobiographique, qui, il parle de l'album The Clash, il dit « Les chansons, elles résument notre vie. Ce disque, il était déjà là en nous, il attendait juste que quelqu'un l'écrive. » Et autre parallèle, effectivement, quand vous êtes en 82, 84, ou même depuis 2005 avec la reformation du groupe, quand vous écoutez aujourd'hui dans la rue de Wunderbar et que vous entendez le chanteur qui s'adresse à vous en disant « tu traînes dans la rue » et si vous vivez ça, ben là, ce phénomène de reconnaissance va faire que va y avoir une adhésion et peut-être une possibilité de devenir fan du groupe et ou fan de la musique. Une certaine idée de la musique, mais aussi une certaine idée, alors je ne vais pas dire un certain sens du style, parce que ce serait du plagiat, mais vraiment une certaine reconnaissance dans l'aspect visuel du punk, ou l'aspect littéraire accrocheur que peut avoir, par exemple, le nom des groupes, donc Parabellum en référence au pistolet, LSD, on passera sur l'acronyme psychotropique, ou d'autres noms plus ou moins provocants, voilà, j'ai mis deux groupes comme ça, Comintern Sect et Reich Orgasme. Donc l'aspect accrocheur des noms et l'aspect aussi accrocheur de l'image. Donc c'est toute petite photo où vous pouvez voir troisième personne en partant de la gauche, donc Farid, skinhead historique de Colombes et Déal, qui, quand je parle de visuel qui attire, ce qui est aussi important pour le fan, c'est qu'il va y trouver des uniformes, une façon de s'habiller qui va le marquer, qui va vouloir adopter. Donc il déclarait, Farid, en 2018, un certain Philippe R, dont je ne cite pas le nom parce qu'il va avoir déjà deux interventions tout à l'heure. Tu l'interrogeais au sujet de, voilà, de comment tu découvres le mouvement, et il parle de, je crois, du following de Shem 69 à Reading en 78. Voilà. Une photo qu'il avait vue, et il dit moi je vois la dégaine, ça me parle. Après, je vois deux mecs pas forcément très clairs, et il dit de toute façon, facho, je m'en fous, ma dégaine, je la veux, je la prends, c'est la dégaine qui m'intéresse, pas forcément ce qu'il y a directement, ce qu'il y a derrière de politique. Au dernier aspect aussi, dans cette volonté de découverte, l'idéologie va se concrétiser dans des lieux de culte. Je mets en exergue ce mantra de Spiel, chanteur de TH, qui au début de ses concerts ou pendant les morceaux disait « Le meilleur, c'est un bain de sueur ». Donc le bain de sueur, on le partage pas chez soi en écoutant la musique, on le partage en allant à des concerts dans... en allant à des concerts dans des bars, donc des lieux, des bars, ici on pourrait parler à Paris de l'association Paris Bar Rock ou autre chose, dans des squats et dans des concerts où on va avoir des actes, des codes à reconnaître, le moindre d'entre eux n'étant pas le pogo, et voilà, cette façon vraiment très, très particulière de se comporter pendant un concert. Dès lors, pour moi, le fan de punk, ce serait donc un passionné, au sens large, un curieux qui a commencé à s'informer, ensuite par effet de, j'aurais pu évoquer la notion de braconnage culturel, qui a commencé à apprendre des choses par-ci par-là, et qui ensuite va l'intensifier, va se dire, ce sera le sujet de ma deuxième partie, qu'est-ce que je peux faire pour m'approprier cette idéologie et l'incarner, faire en sorte qu'elle fasse sens pour moi dans ma pratique. Un sujet sur lequel, voilà, là, jusqu'au complétisme, hein, ça peut être acheter tous les disques du groupe, tous les pirates, l'acheter ou les voler, rue Pierre Sarrazin en passant devant New Rose, tout tenter de voir à tout prix, même quand on a part d'argent, donc quitte à frauder en passant par les toits du palace ou en dépouillant les gens à la sortie du concert, etc., etc. Un sujet sur lequel je ne reviendrai pas donc dans ma deuxième partie sur s'approprier, c'est la question de vraiment de qui nous inspire pour rentrer dans le punk, parce que je pense que le sujet va être très très largement évoqué, et parce que je n'ai pas envie de trop dépasser mon temps. Donc dans cette question de l'appropriation, je me dis qu'après la phase de la découverte, eh bien, en s'interrogeant sur l'incarnation d'une idéologie, on va montrer que le fan, c'est aussi quelqu'un qui est actif, qui participe à la constitution de son idéologie punk, et cette implication peut s'entendre de plusieurs façons. Tout d'abord, le fan, il reproduit la musique qu'il aime, que ce soit en jouant des reprises ou une musique similaire. La simplicité supposée, bien entendu, des accords punk, faisant qu'on peut s'y retrouver. Il va reproduire, entre guillemets, la musique en organisant des concerts dans des lieux qui lui plaisent ou en faisant jouer des groupes qui l'intéressent. Donc là, j'ai donné un exemple. Donc vous avez GG, le chanteur des Facos, qui, depuis à peu près 1995, est un groupe qui ne fait quasiment que des reprises de punk années 80. Donc voilà, comme Intern Sect, Reich Orgasm, Jeune Seigneur, Bébé Doc, etc. etc. Et voilà, c'est le... Quand on aime le punk, même s'ils sont pas du tout parfaits, c'est le groupe parfait, c'est le groupe punk parfait à voir à la fête de la musique, mais pas que. Autre aspect, donc le fan reproduit, le fan soutient, ou le fan essaye de structurer sa passion en se déplaçant dans des lieux et autres. Là encore, donc deux aspects dans le comportement du fan. Il va nommer toute la musique qu'il aime. Il va tenter, on a parlé d'authenticité aussi tout à l'heure. Il va tenter d'établir des classements entre ce qui est bon, ce qui est mauvais, entre ce qui est pur et fidèle à un esprit. Aussi imparfait, aussi subjectif vont être ces classements. Il va aussi quelquefois, ça je passe très vite, il va aussi parler à la place du groupe dans les réseaux sociaux ou autre chose pour justifier l'attitude du groupe ou faire le procès de certains groupes. Hein. On pourrait épiloguer longuement sur les forums de discussion, tel ou tel groupe est-il faf, est-ce que... bref, on parlera plus tard de la souris déglinguée, de l'infanterie sauvage ou de Commune Tarnsec pour mettre les exemples les plus provocants. Il y a aussi le fait que selon les concerts auxquels il se rend, il faut bien qu'il se rende compte qu'il va soutenir une certaine cause. Donc là, j'ai eu deux exemples qui me sont venus très rapidement. Voilà, aller à un concert des Béruriers Noirs, c'est quand même une attitude, un certain engagement. De la même façon qu'aller à un concert de la Brigada Flores Magón, c'est aussi autre chose, c'est connoté. Je ne parle pas de l'exemple du rock anticommuniste, parce que rock against communism, parce qu'on va en parler juste après, mais c'est aussi une question que je me poserai, le fan de rock. Comment il va s'organiser pour aller dans des concerts qui, par définition, n'ont pas forcément vocation à être beaucoup annoncés, etc., etc. On arrive donc, je pense, de toute façon, en se comportant, en étant passionné, le fan est une sorte, peut devenir très vite une sorte de prosélyte. Troisième aspect, quand je parle d'approprier une idéologie, quelque chose qui va peut-être parler à beaucoup d'entre nous, c'est qu'est-ce qu'on fait du chercheur fan de punk, ou du punk fan universitaire, qu'on ait d'abord été punk et ensuite qu'on soit devenu chercheur. Et ça, c'est une question, je pense, que j'ouvre vers tout le monde. Est-ce qu'en faisant nos observations, quand on va à des concerts, en travaillant sur ces groupes, on a une sorte de mise à distance ? Est-ce que, au contraire, en essayant d'adopter une pratique réflexive sur notre propre pratique, on se protégerait d'une forme de fanatisme punk ? Je pense que, moi, tout l'intérêt d'être chercheur sur le punk et d'aimer ça, faut pas se le cacher, c'est de se dire qu'il va y avoir une forme de redoublement. Alors là, c'est le prof qui parle, redoublement. C'est de se dire que, d'un côté, en tant que fan, en allant au concert, on va se construire à travers sa propre pratique, mais aussi en étant chercheur, on va réfléchir sur ce qui fait notre passion, etc. Et on va arriver à des exemples particuliers. Donc là, vous avez le scan d'une nouvelle que j'ai faite sur les toilettes de la miroiterie, où je racontais une rencontre dans la queue de la miroiterie avec un homme à peu près ivre-mort qui pisse sur la porte de la miroiterie, donc du mauvais côté, qui ouvre la porte, et moi je me retrouve de l'autre côté, et j'évite le jet d'urine qui passe dessus. Et donc ça, c'est extrait d'un fanzine qu'il y a fort longtemps, j'ai contribué à fonder, et où de temps en temps, j'interviens. Et donc voilà, c'est un projet qu'on a avec Sous, c'est aussi de faire vraiment une intervention, de travailler dessus, et se pose, il y a un phénomène d'emboîtement en fait, on se retrouve à travailler sur à faire de l'égo-histoire, quoi, à travailler sur des éléments dans lesquels on s'est investi. Et par exemple, un fanzine comme ça, il y a quelques easter eggs un peu cachés dans le roman photo ou autre chose. Dans le roman photo, par exemple, il y a Pascal, le chanteur de Varum Joe, qui sort d'une poubelle, et sur la poubelle, il y a marqué « Marco, je t'aime », donc référence au chanteur de Wunderbar, signé Nico. Donc c'est, voilà, c'est une private joke que Lily a voulu faire pour moi, sans forcément me demander. deuxième niveau d'étape, le passionné, donc, pour évoluer ou pas dans son attitude, va donc se demander est-ce que je deviens ou pas militant, est-ce que je reste passif face à ce que j'observe dans cette scène punk, ou est-ce que j'essaye de devenir activiste. Et la question donc de l'activisme ou du militantisme punk va montrer que, comme dans toute scène, mais que dans la scène punk rock, il y a des contradictions très fortes. Et ça va être le sujet de et des ambiguïtés, et donc ça va être le sujet de ma troisième partie, se demander, le fan, dans le discours qu'il adopte pour justifier les comportements de ses idoles, qu'est-ce qu'il emploie comme justification. Et donc voilà, j'ai distingué 3 voire 4 niveaux d'analyse, et voilà, on en discutera après pour se demander voilà, lequel est le plus pertinent ou pas. Premièrement, en guise d'introduction, déjà, justifier les propos d'un groupe, ça se reformule comment ? Ça revient à ce que j'ai dit avant, parler à la place du groupe, interpréter ce que dit le groupe à la place du groupe, parce que souvent, dans certains cas, comme le groupe il n'a pas forcément vocation à communiquer, tweeter tout le temps, le fan va essayer de combler les vides, l'absence de communication ou l'irrégularité, qu'elle soit volontaire ou pas non voulue, dans la communication du groupe. Et ça va l'amener, donc, pour justifier l'existence de ou pas certaines chansons, se poser la question quel levier il va utiliser pour justifier ça. Tout d'abord, c'est du second degré. Voilà, cette chanson, hein, c'est pas gênant, c'est du second degré. Et nous, en tant que chercheurs, on se demande qu'est-ce que cache la justification par le second degré. Ça peut être l'argument de la provocation, l'argument aussi de, dans certains cas, non, mais c'est une erreur de jeunesse, ils étaient jeunes, ils aimaient bien provoquer, maintenant, ils regrettent un peu ce qu'ils ont dit. Ou aussi simplement la fascination, là j'en ai parlé avec Rémi Jiménez au sujet de Community Insect, ou aussi la fascination pour des thèmes glauques ou morbides. Donc j'ai mis l'image de Rush Orgasm en référence à la chanson Salope, mais Rémi, qui avait fait une intervention sur Community Turn à la Philharmonie, voilà, je lui ai demandé, mais toi tu les vois comment, les paroles de la chanson Sonia, où on évoque très frontalement un viol. Et donc voilà, il m'a parlé de fascination pour des termes glauques, etc. Cette question aussi du recours au second degré va poser la question aussi de la réception des paroles par le public. Le groupe peut avoir écrit une chanson volontairement provocante sans forcément penser à la façon dont le public va l'entendre. Et voilà, je pense qu'il y a clairement des gens qui ont pris Sonia au premier degré. Autre aspect de justification, le recours à la violence dans les paroles, effectivement. Et moi, je vais me focaliser sur les chansons contre les forces de l'ordre. Donc, que ce soit à travers la chanson « Salope de keuf des cadavres » ou à travers la chanson « Porc en bleu », dont je vous mets un exemple d'un des couplets. Est-ce que la chanson n'est qu'une mise en scène d'une haine contre les forces de l'ordre ? Parce que moi, je pourrais donner des exemples de punks qui sont eux-mêmes policiers. Donc voilà, est-ce que c'est contre nature d'aimer ce genre de chanson ? Est-ce que c'est juste une volonté de les ridiculiser à travers des textes ? L'exemple de Porc en bleu est assez parlant. Ou est-ce que c'est juste une chanson qui va viser à faire une énumération de toute leur bavure ? Et en validant des chansons comme ça, le fan va devoir se poser s'interroger sur le sens de sa passion. Est-ce que ça le fascine ? seulement, ou est-ce que il est en accord avec ses paroles? On progresse ainsi. Donc la question aussi de la va-t-on justifier ou pas toute forme d'élan politique? Et là se pose vraiment la question du on revient vers mes deux axes. Est-ce que le fan, il va écouter, il va au concert juste pour se défouler, ou est-ce qu'il y va en tant que militant? Et dans ce cas-là, ben, il y a des comportements, des textes de chansons qu'il ne va pas forcément valider, même si il y a encore plein de biais, c'est-à-dire que quand on va en concert, des fois, on n'entend pas très bien les paroles, donc on va peut-être se mettre à danser sur des chansons juste avec le rythme. On va peut-être chanter, donc sans connaître les paroles, on va les chanter en yaourt, c'est tout à fait possible. Ou on va aussi chanter les paroles sans comprendre les tenants et les aboutissants d'une chanson. Et donc, vraiment, l'intérêt aussi, c'est que le fan... Là, je viens de dire volonté de se défouler contre fibre militante. Le fan, à un moment donné, quand il va comprendre les paroles de ce groupe et qu'il a ou pas des convictions, se demander, il va devoir faire des choix et ne pas accepter de ne pas faire de choix à l'égard de certains groupes. C'est cautionner de manière peut-être passive ce que dirait le groupe. Le dernier aspect, je passe plus vite, effectivement. Un axiome qui revient souvent pour justifier certaines attitudes, c'est la question de l'amitié. Et donc, là vient comme exemple le mantra de la soirée déglinguée, peu importe leurs idées, puisqu'il y a l'amitié. Ce que certains diront, oui, mais parler de peu importe leurs idées, puisqu'il y a l'amitié, quand on voit ce que vous avez fait suite au concert de Fréjus en 2015. Pour certains, ce mantra, certains plus ou moins militants, ce mantra ne suffira pas. Et de l'autre côté, j'en parlais hier dans ce très joli bar après la réunion avec Luc ou autre. Si c'est l'amitié qui prime, dans ce cas-là, quand Gilbertin de Caméra Silence ressurgit après plusieurs années de disparition, on va pas dire « Oh mon Dieu, c'est pas bien ce qu'il a fait, il a braqué un dépôt de la Brinks ». Non, on va juste dire « C'est un copain ». Qui revient avant tout, et on est très 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 content de le revoir. Ça va être quelque chose qui dépasse ce cautionnement idéologique, etc. De la même façon, et là j'ai encore référence à certains Philippe R qui en conclusion dans son intervention à Ici les Moulineaux, donc voilà, t'avais fait une dédicace à Géno de l'Infanterie Sauvage, voilà, t'avais dit quelque chose en sorte, il a à un moment donné nos chemins se sont séparés, mais il n'empêche que c'était un ami, et c'est ça qui prime dans ce discours du fan. Et la question se posera, est-ce qu'on devrait distinguer les cas où on est d'abord ami et puis qu'on devient fan groupe, ou est-ce que on est d'abord fan du groupe et après on devient ami? En conclusion, donc, le punk, puisque la définition même du punk est labile, mouvante, la définition de l'incarnation de cette passion de fan va être labile, donc selon ses modalités d'incarnation, selon la façon dont on a découvert ou pas la musique. En s'interrogeant sur l'idéologie punk, on va s'amener à s'interroger sur les causes de la passion du fan. Est-ce qu'il va dans cette musique pour y chercher des sensations, des émotions ou quelque chose qui va structurer? Moi, je trouve que la communauté de fans punk, elle est comme toute communauté, elle trie des friches avec une certaine mauvaise foi et d'une manière particulière. Je finis forcément très vite en remerciant ma compagne, en me remerciant moi-même, en remerciant Laurent Grune qui n'est pas là, en remerciant Christophe Pécou et en remerciant Pierre Rabou et tous les autres. Vous êtes dans le FC Hooligan. Je vous remercie.
Merci. Alors, des questions, des réactions? Sinon, moi, quand même une question. Alors, ton hypothèse un peu de dire que ce rapport de fan, c'est une forme d'adhésion idéologique, mais qui n'est pas forcément prendre en compte tous les aspects justement idéologiques ou adhérer à ces moments-là. Sur la question de l'anarchisme, justement, est-ce que pour toi, c'est ce même type d'adhésion qui est un peu une adhésion où finalement l'anarchisme, ça fait partie un peu d'un folklore associé par exemple à un groupe, ou est-ce que là par contre tu penses que dans ce type de fan là il y a plus une prise en charge vraiment de valeur d'un discours et tout?
Alors, Pierre Rabou va parler d'anarchisme tout à l'heure. Ça fait écho aussi dans ce que Craig O'Hara disait dans son livre, dans sa sous-partie sur l'anarchisme. Il dit aussi que tous les fans de punk ou les punks qui vont se prétendre anarchistes n'ont pas forcément, certains vont juste adhérer à l'idée, tu parlais de folklore, à l'idée qu'ils se font de l'anarchisme, et d'autres vont faire ça dans une action pensée et structurée. Donc c'est au bout d'un moment, voilà, à quel niveau, si c'est vraiment le fan qui va dire pour moi l'anarchisme c'est juste le refus de toute autorité et rien de plus, effectivement la posture de fan va être différente que si tu si t'es quelqu'un qui pense ça comme une action politique. Dans ces cas-là, honnêtement, ça peut aider dans le deuxième cas à avoir des positions, c'est caricatural, plus tranchées, je trouve. De dire, voilà, là, ça ne rentre pas en ligne de compte avec ma pratique politique, donc je peux me permettre de le mettre de côté. Et se pose la question quand on parlait, voilà, j'ai pas trop parlé des forums, effectivement, au bout d'un moment, quand on regarde des forums de 14 pages, etc., ben, voilà, va y avoir des individus plus véhéments, dont certains ont juste une culture livresque, et d'autres militent, et donc qui vont forcément interpréter certains comportements, et vont se dire non, qui vont vraiment dire, il y a une norme, il y a un comportement juste, il y a un comportement inconcevable, et moi je suis prêt à aller... La question de l'anarchisme pose aussi, c'est Grégora qui le disait, la question d'être dans l'action physique ou pas. Voilà. Est-ce qu'on est anarchiste non violent ou est-ce qu'on est anarchiste en mode action directe ? Voilà. Et dans les ambiguïtés du punk, il y a déjà aussi cette dualité. Quoi.
Merci pour Nicolas pour cette présentation qui est passée par les toilettes, évidemment, comme il fallait. Mais pour revenir sur ce que disait Patrick, c'est ça, hein, sur le film Rude Boy, c'était vraiment l'ambiguïté du terme White Riot des Clash, hein, comment il pouvait être perçu par une partie de la jeunesse blanche, londonienne ou prolétarisée, etc. Et donc il y a toujours cette dimension. Et puis pour en venir au texte de Comintern Sect, notamment Sonia, ouais, sur lesquels nous, on a tout de suite rebondi les Bérus, puisqu'on avait écrit Hélène et le sang contre le viol. Et donc, je voulais dire par là, et d'un autre côté, on a écrit Le Renard, enfin, j'ai écrit Le Renard, qui parle aussi du viol, qui est un texte assez violent, en fait. Et je me suis demandé dans quelle mesure, véritablement, quand on écrit des textes, on maîtrise tout. En fait, on maîtrise pas tout, et surtout pas ce qu'il en devient. Hein, c'est-à-dire que les interprétations faites par les uns et les autres, ils nous échappent complètement. Ça a été le cas pour Porcherie, d'ailleurs, qui était un état des lieux au départ, et qui a pris une dimension complètement politique liée au public. Et donc voilà, c'était ça ma question, c'était de montrer un peu, je trouve que tu as réussi peut-être à donner des pistes de recherche sur cet aspect, c'est-à-dire la déconnexion qu'il peut y avoir entre ce qui est raconté, ce qui est perçu et ce qui est... Voilà.
Et certains groupes vont aussi, ouais, des fois faire le choix de se dire, bon, ben, on accepte tout, et d'autres vont... C'est humain de reconnaître que tout ce qu'on dit voilà, peut être interprété, etc. Et d'autres groupes, voilà, vont se dire, bon, on va peut-être faire un effort si on se rend compte que dans notre public, il y a des gens qui vont prendre ça complètement premier degré et faire des saluts nazis, etc. Et d'autres vont se dire, bon, ben, allez, ça fait partie du folklore. Voilà, on accepte tout le monde, quoi.
Bien sûr, après, il y a la partie provocation, tu as parlé de Farid, tout ça, bon, c'était faire régner la terreur, quand même, à l'époque. Mais ce que je voulais dire aussi, par rapport à ça, sur la compréhension des textes, c'est aussi lié beaucoup au mixage des albums. Moi, je me souviens de l'album de La Souris...
Aujourd'hui et demain ?
Aujourd'hui et demain, ouais. Je crois qu'il était assez mal mixé. Il y a une chanson qui s'appelle Rien que ça, et je n'avais pas compris les paroles. Et pour moi, c'était resté comme... On va croire ce que tu veux, ce que tu penses ou pas, on va croire que tu es anarchiste, communiste, etc. Tu vas croire ce que tu peux ou ce que tu penses.
On peut dire
pas.
Ce que tu veux, ce que
et,
tu penses.
Et en fait, c'est pas ça, les paroles. Ouais. La réalité, c'est pas ça. Mais j'ai cru longtemps que c'était ça. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, parce qu'il met les deux volets, justement. Tu parlais du côté bien-mal, du côté du mélange. Et je trouvais que ça, c'est intéressant. Mais en fait, la réalité de son véritable texte, elle n'est pas là, en fait. Donc on interprète ou on surinterprète des fois des choses qui ne sont même pas dites dans les albums des gens, quoi.
Et des fois, effectivement, faut vraiment distinguer la chanson, son rythme. Voilà, le rythme de Sonia peut tout à fait être entraînant. Voilà, c'est quand même un rythme très carré qui avance. Et d'autres chansons où des fois on va juste entendre le titre Et le reste des paroles, ça va être une sorte de gloobie-boulga, parce que de toute façon, comme on est dans un concert où, l'exemple de la souris, entre autres, mais on se trouve dans un concert où on entend tout le public à côté de nous qui chante à tue-tête, etc. On va pas entendre le groupe. On va peut-être se retrouver, c'est aussi ça qui est des fois au concert de Wunderbar. Par exemple, j'avais un gars, il me dit, je les avais vus au Rose Bonbon en 82. Et donc, il a filmé tout le concert derrière moi. Il chantait les morceaux, mais en se trompant sur les paroles ou pas. Et donc, ça peut être ça. On se retrouve entre guillemets, au mauvais endroit dans le concert. On va voir des gens qui vont.
Il était peut-être au bar aussi, donc.
À côté de la sono, à droite. Et donc vraiment, c'est aussi des fois intéressant de quand on se concentre sur les mondes du public. Voilà, il y a vraiment des gens. C'est pas une critique, ça m'est arrivé. Ils chantent n'importe comment les paroles et ils font des fois des contresens. Bref, des fautes de scansion, de rythme. Et c'est pour ça que des fois acheter le vinyle c'est bien parce que. Dans Aujourd'hui et Demain, il n'y a pas toutes les paroles de toutes les chansons. Donc ça peut être aussi intéressant d'acheter le vinyle parce qu'on a les paroles des chansons. Et même c'était Marsu qui me disait, quand vous alliez en Allemagne, il faisait des petits livrets avec les paroles des chansons en français et en allemand. Ou pas ? Je crois.
On n'a jamais joué en Allemagne. Donc.
Voilà. Mais parce que c'était. Je confonds alors. Je confonds avec dans ce cas-là avec un autre pays, mais je me vois.
Zurich peut-être.
Mais je me vois en discuter avec lui.
En Suisse allemande.
Je me vois voilà des fois ça peut-être aussi la question de au concert distribuer les paroles des chansons et les traduire pour dire écoute tu pensais aller à tel endroit attends regarde bien ce qu'il y a marqué dedans et après agis en connaissance de cause plutôt que de dire je savais pas.
Ok, encore merci beaucoup Nicolas pour la présentation.